Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
En Allemagne, des milliers de documents personnels appartenant à des personnalités politiques, culturelles, médiatiques ont été divulgués sur le net depuis début décembre. Numéros de compte bancaire, téléphone, adresse, autres données confidentielles appartenant à près d'un millier de personnalités, dont Angela Merkel. L'affaire n'a été révélée que vendredi. Bonjour François Delrue, vous êtes chercheur en cyberdéfense et droit international à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors que sait-on de cette cyberattaque qui a eu lieu en Allemagne ?
Bonjour. Donc ce qu'on sait pour l'instant, c'est que tout au long du mois de décembre 2018, il y a eu une diffusion sur Twitter, sur un compte Twitter, sous la forme d'un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que chaque jour, vous aviez une diffusion différente de données visant un groupe de personnes différentes. Donc par exemple, un jour était dédié au Parti Les Verts, un jour était dédié à la CDU d'Angela Merkel et ainsi de suite. Et donc avec cette diffusion petit à petit d'informations, on est arrivé à des diffusions concernant plus d'un millier de personnes en Allemagne, des personnalités politiques, des personnalités aussi du monde des médias, du monde du sport ou des mondes de la communication. Pour l'instant, l'Office fédéral allemand pour la sécurité des systèmes d'information, le BSI, a confirmé que les réseaux du gouvernement allemand n'avaient pas été affectés. Donc il s'agit plutôt d'un piratage de cybersécurité visant des personnalités privées plutôt qu'un piratage visant le gouvernement. Après, si on veut préciser un peu les choses, la première réaction, et je viens justement de faire cette erreur, mais la première réaction était de dire qu'il s'agit d'un piratage massif avec une comparaison qui a été faite avec les Macron Leaks ou le piratage du Parti démocrate aux États-Unis.
Et alors pourquoi est-ce une erreur ?
C'est pas vraiment une erreur, c'est une incohérence un abus de langage. Dans le sens, ce n'est pas un piratage, mais c'est un doxing. Il s'agit d'une diffusion.
Il va falloir que vous expliquiez la différence.
Donc, dans le cas d'un piratage massif, en fait, ce que vous allez avoir une personne, un hacker, qui va viser une institution ou des personnalités. Souvent, ça va être plusieurs personnes liées à une institution. Par exemple, dans le cas du piratage de En Marche, il a visé les cadres du parti. Mm-hmm. Afin de collecter des données et ensuite de les faire fuiter sur Internet. Mmh. Dans le cas du doxing, on est ici sur la révélation.
Doxing, veut dire quoi ?
Donc ça veut dire la révélation en ligne d'informations qui ont été collectées de manière diverse dans le but de nuire aux personnes qui sont visées. Mmh. La différence ici est qu'on est plus sur la diffusion plutôt que sur le piratage. Puisque dans le cas présent, en fait, il n'y a pas de preuve que la personne ait piraté les comptes, mais plutôt une collecte d'informations par des moyens divers et variés.
Mais ça, des moyens qu'on imagine être illégaux, et évidemment, ils n'ont pas été soutirés, ces renseignements, avec l'agrément des personnes qui avaient un mot de passe, ce genre de données confidentielles.
On peut poser la question de qu'est-ce que vous entendez par agrément, par exemple dans le sens où si vous liez
est-ce
votre...
Est-ce que vous pensez qu'Angela Merkel a donné son mot de passe ?
Si vous liez votre compte Facebook, par exemple, à votre numéro de téléphone et votre adresse email, et donc votre nom qui est déjà sur votre compte, avec l'une de ces trois informations, je peux très facilement retrouver les deux autres informations. Ce qu'a précisé l'Office allemand pour les affaires criminelles, c'est que dans la majorité des cas, en fait, les informations révélées étaient simplement les numéros de téléphone, les noms et les adresses e-mail des personnes. Donc trois informations que je peux retrouver d'une manière assez simple. Je ne dis pas qu'en soi, la collecte est licite ou est, comment dire, éthique, mais elle n'est pas illicite dans le sens où il n'y a pas eu un piratage des comptes. Après, il y a des cas, notamment avec les partis politiques, où il y a eu des piratages d'adresses e-mail et accès illégalement à des documents, ce qui a donné les informations.
Alors, on va passer quand même rapidement sur une question évidente. Qui a fait le coup ? Et là, François Delrue, qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ce sujet ?
Alors, sur qui est responsable, le 6 janvier, la police allemande a arrêté un jeune homme de 20 ans, qui serait donc responsable de l'affaire. Hier, il est passé aux aveux et il y a eu une conférence de presse du procureur de Francfort qui, justement, a détaillé les faits et a détaillé la culpabilité de cette personne. Donc, il est passé aux aveux. Ils ont décidé de le remettre en liberté hier, à la fois pour son jeune âge et aussi parce qu'il y a très peu de risques qu'il fuit le territoire allemand. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la première question, c'est est-ce que c'est possible qu'il ait fait cette attaque tout seul ? Est-ce que c'est possible ?
Évidemment.
Oui, pour deux raisons. D'une part, il a été prouvé qu'il était relativement facile de pirater des comptes. C'était le cas quand on a eu les Macron Leaks. Le directeur de l'Agence nationale de cybersécurité française, l'ANSSI, précisait que les piratages étaient relativement simples et avaient pu être commis par n'importe qui, voire par une personne seule.
Comment ? Parce que donc là, pour que les auditeurs s'en souviennent bien, et il s'agissait donc de messages qui avaient été échangés par des membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, et donc ces messages avaient été révélés sur un site, ils étaient donc ouverts à la lecture pour tous. Et là, comment fait-on ce type de piratage, François Delrue ?
En fait, il faut dissocier le piratage après de la diffusion de l'information. Ce qui donne l'importance au fait, que ce soit aujourd'hui, que ce soit le cas des Macron Leaks ou du Parti démocrate, c'est la diffusion. Et c'est ça qui a donné cette caisse de résonance, qui a donné l'importance du cas et ses conséquences. Mais en soi, le piratage est relativement basique. Vous trouvez quelqu'un qui a un mot de passe relativement faible, que vous arrivez à forcer. Une fois que vous avez réussi à forcer l'adresse email de quelqu'un, vous allez avoir accès à d'autres informations qui vont vous donner accès à ses comptes à lui, mais aussi à des informations sur d'autres personnes qui peuvent vous renseigner aussi sur comment rentrer dans les comptes de ces personnes.
Alors je crois qu'on appelle ça de la fraude sociale, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'astuce informatique particulière pour obtenir ces informations-là.
L'astuce utilisée, c'est le phishing. Donc le phishing, c'est on vous envoie un mail qui a l'apparence d'un mail légitime. Vous en recevez régulièrement, c'est les mails de vos banques vous disant qu'il faut cliquer sur ce lien pour mettre à jour vos données. Si vous cliquez et que vous mettez à jour ces données, vous donnez en fait vos mots de passe et vos logins à des personnes qui pourront après rentrer sur votre compte.
Bon, c'est une affaire qui a suscité beaucoup d'émotions en Allemagne, avec une question immédiate, François Delru. La France est-elle protégée contre ce type d'attaque ?
Alors, est-ce que la France est protégée contre ce type d'attaque ? Oui et non, dans le sens où oui, la France s'est dotée de moyens de cyberdéfense et de cybersécurité. Il y a eu la création de l'ANSSI en 2009, la montée en puissance du commandement cyber au sein du ministère de la Défense. Par contre, ici, et c'est bien ce que je précisais en introduction, nous ne sommes pas sur une affaire où les systèmes d'information de l'État ont été compromis. Ce sont des systèmes d'information privés. Ce n'est pas la responsabilité de l'État de s'occuper de protéger votre compte Facebook, votre compte email. C'est à vous d'avoir un mot de passe solide, d'avoir...
Est-ce que le meilleur mot de passe, finalement, ça ne serait pas la suppression du mot de passe ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à terme, de toute façon, François Delru, il faudra passer à un autre mode de protection des comptes et des données personnelles que chacun a sur Internet aujourd'hui ?
Alors après, oui, c'est une possibilité. On peut toujours spéculer sur la cybersécurité. Si on fait un parallèle avec le monde réel, néanmoins, dans le cas présent, ce qu'on a appris, c'est qu'une des choses qu'avait pu faire ce jeune homme, c'est acheter des listes de mots de passe sur le marché noir.
Ah, ça se trouve ?
Ça peut se trouver. On peut trouver des listes de comptes piratés qui, en soi, vont être des personnes qui vont réussir à pirater une plateforme en ligne et obtenir la liste des comptes et des mots de passe associés, qui ne vont pas en faire grand-chose, mais en les vendant, ils vont trouver des personnes qui vont savoir les exploiter en faire quelque chose. Si on fait un parallèle avec le monde réel, ce serait comme acheter votre clé au marché noir. Dans ce cas-là, la cybersécurité, ce serait renforcer la sécurité de votre porte. Mais vous pouvez mettre toutes les sécurités de votre porte que vous voulez. À partir du moment où le voleur a accès à votre clé, il pourra ouvrir votre porte, quel que soit le système de sécurité installé derrière.
Et alors, dernière chose, François Delru, est-ce qu'il est imaginable aujourd'hui que l'on remplace les mots de passe par des processus de reconnaissance pupillaire ou alors digitaux, comme c'est le cas parfois sur certains téléphones portables aujourd'hui ?
C'est une possibilité qui est envisagée. Après, aucun système de cybersécurité est infaillible. Et la plus grande faille sera derrière aussi ce que les gens seront amenés à poster en ligne et les informations qu'ils divulgueront sur eux-mêmes.
Merci François Delru, vous êtes chercheur en cyberdéfense à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Et il est 7h21 sur France Culture.